plus de puissance.
Oui, monsieur.
Mesdames, messieurs.
Je suis une voix.
Je vais à la rencontre de la nature.
Je suis le sillon à suspense.
On peut se demander qui de l'homme ou de la nature est musicien.
J'ai utilisé des sons d'animaux pour créer des rythmes.
France Culture, l'électro naturel, Étienne Menu.
Avec un ensemble d'instruments électroniques et avec le sourire.
Bonjour et bienvenue dans ce cinquième et dernier épisode de l'électro au naturel, notre série musicale d'été, consacrée aujourd'hui à Drexia, groupe de Détroit, et au mythe d'une Atlantide noire qu'il a développée à travers ses disques, ou comment des boîtes à rythme et des synthétiseurs ont fait naître une utopie afro-futuriste. Drexia, c'est un duo de musiciens afro-américains, auteurs d'une série d'albums et de EP entre 1992 et 2002, dont l'identité est longtemps restée inconnue. Mais Drexia, c'est aussi le monde fictionnel, inventé par ces deux hommes issus de la scène techno de Détroit. Un monde suggéré plus que vraiment décrit, mais dont on comprend qu'il s'agit d'un univers subaquatique plus avancé que le nôtre, peuplé de femmes et d'hommes noirs. Cette Atlantide noire est une utopie essentiellement sonore, instrumentale, même si elle est aussi alimentée par les titres des morceaux, les pochettes des disques et les quelques textes qui les accompagnent. Le mythe raconte que Drexia aurait été bâti sous l'océan par les esclaves africains, jeté dans l'Atlantique lors de la déportation à bord des négriers, mais mystérieusement doté du pouvoir de respirer sous l'eau. C'est bien pour cela que nous voulions en parler dans cette série qui pose la question de la vie dans la musique électronique. Drexia montre que les machines sont capables de raconter une naissance, de donner littéralement une vie sonore à des êtres et à des lieux, et de faire émerger toute une société, tout un pays, avec ses scientifiques et ses guerriers, ses villes et ses vallées, ses monstres marins et ses technologies de pointe.
This is Drexian Cruiser Control, Bubble 1, to Laudosian Cruiser 8-203X. Please decrease your speed to 1.788.4 kilobonds. Thank you. Laudosian Cruiser 8-203X. Please use extra caution as you pass the Aqua construction site on the side of the Aquabahn. I repeat, proceed with caution.
La voix que nous venons d'entendre, c'est celle d'une jeune femme qui se trouve aux commandes du Drexian Cruiser Control. C'est elle qui se charge de réguler la circulation des vaisseaux sous-marins empruntant l'Aquabahn pour traverser Drexia. Mais quelle est donc alors l'histoire de Drexia? Dans le livret de leur album The Quest, sorti en 1997, on peut lire l'explication suivante, qui sera d'ailleurs la seule à être jamais fournie par les auteurs. Quand les bateaux remplis d'esclaves traversaient l'Atlantique, des milliers de femmes enceintes étaient jetées par-dessus bord et mouraient noyées. Mais serait-il possible, se demande le texte, que leurs fœtus, eux, aient pu continuer à vivre? Et qu'une fois sortis du ventre de leur mère défunte, ils aient été guidés vers un monde secret où ils auraient pu respirer? L'eau aurait pu-elle faire muter l'organisme de ces nouveau-nés? Si ces quelques phrases se contentent de poser des questions, la musique, elle, ne semble en revanche pas douter de l'existence de Drexia, ni de sa capitale, la Bubble Metropolis. Drexia se distingue de la plupart des autres univers de science-fiction en ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une description exhaustive et fixée une fois pour toutes. On ne peut que spéculer à partir des morceaux, de leurs titres et des quelques illustrations présentes sur les macarons des vinyles. Il faut donc surtout se fier à son imagination sonore, se laisser mener par la puissance narrative des sons et des mots pour que se construise dans notre esprit cet héroïque monde alternatif. Sur le premier disque de Drexia, Deep Sea Dwellers, sorti en 1992 chez Shockwave, un morceau s'appelle par exemple Seaquake, séisme marin, et un autre Dépressurisation. On peut ainsi imaginer, en écoutant ici Dépressurisation et en l'associant à la Bubble Métropolis suspensionnée, que les citoyens de Drexia évoluent dans des bulles dépressurisées. On devine aussi que les premiers morceaux du groupe retracent le périple jusqu'à Drexia, qui implique donc de se faire dépressuriser, mais aussi de traverser des aqua wormholes, qu'on peut traduire par trous de verre aquatiques, de passer au-delà des abysses, comme le suggère le titre Beyond the Abyss, ou de se voir administrer un enrichissement moléculaire, si l'on en croit le morceau Molecular Enhancement. On découvre des endroits plus ou moins hostiles, comme les vallées de l'Ardossa ou la Unknown Aquazone. On croise des créatures marines, comme le Sea Snake, le serpent de mer, ou des guerriers tels que les Wave Jumpers, les sauteurs de vagues. Et l'on y fait aussi de longs voyages dans l'inconnu, les Unknown Journeys, qui reviennent au total 10 fois dans la discographie de Drexia. Les membres de Drexia sont longtemps restés anonymes et n'ont donné que de rares interviews au cours de leur carrière. Ils n'y révélaient que peu de détails sur l'environnement dépeint dans leur musique et répétaient surtout leur fascination pour l'élément aquatique, pour sa force, sa versatilité, son omniprésence. Leur identité a été progressivement révélée dans les années 2000, en particulier, hélas, à la mort de l'un des deux membres, James Stinson, en 2002. L'autre, Gerald Donald, est encore bien vivant et il s'est illustré depuis sous d'autres pseudonymes, mais sans jamais faire allusion à son passé au sein de l'intrigant binôme. Dans un entretien accordé quelques mois avant son décès, James Stinson avait raconté comment Drexia avait littéralement pris vie dans son esprit. Lors d'une nuit d'insomnie de 1989, il aurait entendu le mot Drexia sortir spontanément de sa bouche et vu déferler en lui des images, des idées et des sons. À l'époque, la techno de Détroit est déjà active depuis quelques années et Stinson l'a découverte notamment par les morceaux de Cybotron, le tout premier projet de Juan Atkins, pionnier de la scène. Historiquement, la musique de Cybotron est d'ailleurs antérieure à la techno étant, on le rappelle, un genre identifiable à sa grosse caisse marquée sur tous les temps. Le style de Cybotron, dont va s'inspirer Drexia, c'est ce qu'on appelait alors juste l'électro, bien avant que le terme ne devienne un mot générique pour parler de l'ensemble des musiques électroniques. L'électro est une forme musicale en général plus lente que la techno, plus syncopée surtout, reconnaissable à ses basses imposantes et à ses caisses claires qui ont l'air de fouetter des plaques de métal. Une forme qui va donc devenir le principal pilier de l'esthétique de Drexia, dont le premier disque sortira 3 ans après cette illumination de Stinson. Sur les EP de 4 ou 5 titres qui sortiront à intervalles réguliers entre 1992 et 1996, Drexia pratique donc une sorte d'électro-techno ornée de nappes synthétiques et de bruitages SF. C'est une musique parfois très raide, très mécanique, mais dont se dégage pourtant un sentiment de présence difficile à définir, incarné mais pas exactement porteur d'une subjectivité individuelle. Certains commentateurs ont avancé que les deux artistes ont voulu s'effacer derrière leur boîte à rythme, telle que la célèbre TR-808, ou leur synthétiseur analogique comme le Korg Monopoly. Et qu'en laissant se dissoudre leurs égos derrière ces appareils, ils ont permis à leur vision singulière de se déployer dans toute sa splendeur. Un autre détail important à souligner, c'est que les deux membres de Drexia auraient presque toujours enregistré dans les conditions du live, en une seule prise, sans post-production. Ce qui peut expliquer en partie la dimension souvent très brute de leurs morceaux, mais aussi donc cette raideur caractéristique qui impose par moments de violents contrastes dans le déroulement de la narration. Leur interaction avec la machine est en tout cas extrêmement directe, chose pas si répandue chez les artistes électroniques qui bien souvent retouchent un peu tout ce qu'ils jouent, comme le veut le principe du studio en tant qu'instrument dont nous parlions hier. saura jamais bien si Stinson et Donald préparaient longtemps leurs compositions ou s'ils pouvaient au contraire les improviser, comme on pourrait par exemple supposer à l'écoute de ce morceau Aqua Wormholes et de ses claviers évoquant une sorte de jazz funk venu du futur. Il est en revanche certain qu'ils passaient énormément de temps à réfléchir aux images et aux concepts qu'ils voulaient travailler, et que leur approche aqua-centrée du son donnait à leur production une grande homogénéité, doublée d'une fluidité stylistique qui leur permettait de varier les climats, les tempos et même les registres, passant parfois de l'électropop à l'indus en l'espace d'un ou deux titres. Leur musique se distinguait d'à peu près tout le reste de ce qui se faisait à l'époque dans la techno et l'électro, y compris à Détroit, et les deux hommes ne visaient d'aucune façon le succès en club et encore moins dans les charts. En interview, ils insistaient toujours sur l'importance de l'intégrité artistique et l'absence d'enjeux financiers propres au projet Drexia. Jusqu'à sa mort, James Stinson restera ainsi chauffeur routier et ses amis racontent même qu'il emportait des machines à bord et leur faisait écouter par téléphone les morceaux qu'il composait pendant ses pauses. S'effacer derrière les machines donc pour mettre en lumière l'utopie afro-futuriste de Drexia. Une utopie parfois guerrière, où, au-delà des limites dépressurisées de la bubble métropolis, on essuie des tsunamis digitaux où on affronte les terribles hommes-poissons de Dart Hoven. Mais une utopie qui peut aussi bien être un paradis sous la mer, où l'on admire les chutes de néant, Neon Falls, du nom du morceau que nous sommes en train d'écouter, pardon. Et pour passer de l'eau aux bulles, il faut donc trouver ces wormholes, ces trous de verre, comme on dit en astrophysique, qui, au lieu de se situer aux confins de l'espace, se cacheraient ici, dans les abysses, des passerelles secrètes qui protègent Drexiennes et Drexiens des agressions extérieures. Bien qu'elle ne l'ait jamais revendiqué explicitement, la mythologie de Drexia est très probablement marquée par le concept d'Atlantique noir de l'historien Paul Gilroy. Cette figure des Cultural Studies a en effet postulé dans son livre « L'Atlantique noir, modernité et double conscience » l'existence non pas d'un monde, mais d'un lieu symbolique mouvant qui aurait émergé au cours des siècles d'esclavage et de déplacements forcés des populations afro-descendantes. La traversée de l'Atlantique, ou Middle Passage en anglais, passage du milieu, pourrait ainsi dépasser son horrifique réalité historique en se projetant comme le vecteur d'une identité noire en lutte, puissante et créatrice. Au négrier pourrait se substituer un vaisseau spirituel, une entité transatlantique toujours en devenir, dont les passagers seraient doués d'une capacité d'adaptation et d'invention bien supérieure à celle des autres êtres humains. C'est donc ce principe de fiction émancipatrice qui se trouve au cœur même de Drexia. Pour apaiser la souffrance des esclaves qui résonne à travers les siècles, l'Atlantide noire et électronique que fait émerger le duo appelle au devoir de contre-mémoire. Selon les chercheurs qui ont écrit sur le sujet, comme Kodo Eschen, Nétris Gaskins ou Mick Harvey, la mythologie Drexia encouragerait une forme salutaire de révisionnisme qui voudrait sinon effacer le traumatisme du commerce triangulaire, du moins proposer une autre solution narrative. Un révisionnisme qui reste suggéré et jamais imposé, puisque les notes de pochette de The Quest qui évoquent cette vision sont moins un manifeste qu'une suite de questions. Et si les enfants des femmes noyées durant le passage du milieu avaient pu respirer dans le ventre de leur mère? Et si les Drexiens étaient les descendants mutants de ces êtres? Et si certains d'entre eux avaient rejoint le golfe du Mexique, puis remonté le cours du Mississippi jusqu'à la région des Grands Lacs, où se trouve la ville de Détroit? Autant d'interrogations qui permettent déjà, en étant formulées, de commencer à exorciser la tragédie de l'esclavage, puis l'abjection de la ségrégation et des lois de Jim Crow. Mais le mythe de Drexilla ne doit pas non plus être considéré comme un refuge dans l'irréalité et la négation des faits où le peuple noir refoulerait, voire noierait sa douleur. C'est au contraire un instrument où la fiction, et en l'occurrence la science-fiction, sert la résistance, la fierté, l'élaboration d'un nouvel imaginaire collectif. Une bonne partie des disques de Drexilla sortent d'ailleurs sur le label Underground Resistance, bastion de la techno afro-américaine engagée dont nous parlions déjà mardi. Un label dont les autres artistes se présentent d'ailleurs eux-mêmes sous des alias de personnages de SF, représentés comme les soldats d'une armée secrète, adeptes de haute technologie et d'éco-activisme.
France Culture, l'électro naturel, Étienne Menu.
Nous disions précédemment que le projet Drexia était habité par des fragments de fiction, mais de fictions ouvertes. Chaque titre de morceau, chaque bout de texte, chaque passage vocal, chaque illustration invite l'auditeur à lui aussi se projeter dans l'utopie. L'ensemble des détails exposés par l'énigmatique entité fonctionne à la manière des aqua wormholes que nous mentionnions plus haut. Ils font basculer le récit de l'imaginaire au réel et nous montrent du même coup une réalité brutale, une vérité trop souvent ignorée, c'est que la vie des Noirs aux États-Unis, dans une société blanche qui n'a jamais vraiment réparé ses crimes, ressemble parfois beaucoup à une dystopie de science-fiction. En parallèle des paysages utopiques et des fières cavalcades aquatiques, comme ici Waterwalker, la discographie de Drexia comporte des moments beaucoup plus sombres qui témoignent d'un constant sentiment d'oppression et d'une lutte à armes souvent inégales. We'll be right back. Selon l'artiste et théoricien Kodwo Eshun, Drexia est ce qu'on appelle une fiction sonique. Ce principe consiste en une narration composée pour l'essentiel d'éléments audio et de leurs paratextes. Il compte donc par définition sur la capacité du public à croire dans le pouvoir du son, un son surtout machinique ici, et qui témoigne des affinités de ses auteurs avec la technologie et la robotisation. Si la fiction sonique se nourrit bien sûr d'indices verbaux ou visuels, elle dépend donc surtout de notre sensibilité à ce médium futuriste et instable qu'est la musique électronique, ici au son des machines analogiques japonaises. Il est intéressant par ailleurs de relever certaines similitudes entre la mythologie drexienne et certains traits relatifs aux croyances d'Ogon. On sait que les ethnologues Marcel Griol et Germaine Dieterlen ont rapporté dans les années 50 des récits cosmogoniques d'Ogon faisant état d'êtres amphibies, les Nomos. Ancêtres légendaires des Dogons, les Nomos seraient des génies des eaux venus de l'espace pour s'installer sur Terre où ils n'auraient pu vivre qu'en milieu aquatique. On sait aussi que les travaux des deux chercheurs ont été contestés par la suite, notamment parce qu'ils auraient probablement surinterprété les propos de leurs interlocuteurs Dogon. Mais dans le cas de Drexia, les interprétations libres sont acceptables, puisque la fonction même du mythe est ici d'être enrichie et extrapolée par celles et ceux qui s'y intéressent. L'utopie Drexia peut aussi faire penser, dans un registre un peu plus éloigné, au pays fictif de Wakanda, développé par Marvel et popularisé par le film Black Panther. Aucun titre de Drexia ne mentionne la notion d'Atlantide noire ou d'Atlantide tout court. On sait en revanche qu'un autre grand groupe afro-américain s'était, deux décennies plus tôt, mis en quête de l'Atlantide à bord d'un vaisseau-mère imaginaire. Il s'agit de Parliament et de leur Mothership Connection, un projet unique dans l'histoire du funk. Et il se trouve justement que Stinson et Donald ont appelé un de leurs morceaux l'Ardosen Funk et qu'on pourrait donc y voir un clin d'œil à leurs prédécesseurs, surtout lorsqu'on sait que ces derniers ont également signé une chanson appelée Aqua Boogie.
I can't swim. I never could swim. I never will swim. I'll put me down. Let go my leg. I told you I could swim. I told you I can't swim. Oh no. Put me down. I hate water. Will you shut up?
Never learn to swim.
Parliament est l'une des formations les plus essentielles du funk américain. Menée par l'excentrique George Clinton en parallèle de son autre groupe Funkadelic, cette fanfare post-hippie a embrassé les synthétiseurs pour élaborer plusieurs albums concept autour des voyages intergalactiques mais aussi subaquatiques. À bord de leur vaisseau-mère, le Mothership en anglais, Clinton et ses camarades Bootsy Collins, Fred Wesley ou Bernie Worrell ont ainsi exploré l'univers en quête de funk et de liberté. Sous ses dehors fantasques, le projet Parliament est donc une œuvre musicale afro-futuriste, une œuvre totale où les idées sonores et textuelles se superposent et où le récit va de pair avec le groove. Et en 1978, Parliament quitte donc l'espace pour plonger dans l'océan avec l'album Motor Booty Affair. La pochette intérieure du vinyle montre le Mothership qui s'apprête à s'immerger et une autre image montre une sorte de fête au fond des eaux où flotte une banderole où il est écrit « We gotta raise the Atlantis to the top », soit « Nous devons faire remonter l'Atlantide jusqu'à la surface ». Une allusion directe à l'île engloutie par Poséidon dans la mythologie grecque, mais ici connectée à l'histoire afro-américaine. Et nous écoutons donc en ce moment même Aqua Boogie, extrait de l'album où il est question de respirer sous l'eau et de danser sans être mouillé. Certes, George Clinton trouverait certainement très drôle que l'on compare ses délires sous acide à la rigueur formelle de Drexia, mais venant lui aussi de Détroit, il pourrait tout aussi bien y voir une étonnante fraternité.
Scar, now you can't see your thing.
Nous nous permettons une embardée vers la musique non pas électronique mais juste électrique avec, vous l'avez sûrement reconnu, Jimi Hendrix. Le guitariste américain s'était lui aussi immergé dans l'élément aquatique à travers cette chanson longtemps restée inédite qui s'intitule Valleys of Neptune et où il chante les vertus curatives de l'océan qui l'enveloppe et cicatrise ses plaies, dit-il, puis évoque des chansons d'amour adressées à l'Atlantide. Une coïncidence sûrement, mais qui suggère tout de même un tropisme des musiciens afro-américains autour de l'idée d'une cité engloutie. Impossible d'évoquer l'histoire de l'afro-futurisme musical sans parler de Sun Ra, ce légendaire jazzman mort en 1993, très tôt converti au synthétiseur, a laissé derrière lui une gigantesque discographie presque entièrement tournée vers l'exploration spatiale, le culte du soleil et le dialogue avec les planètes. En 1969, il publie un album nommé Atlantis, consacré à l'île submergée ainsi qu'à d'autres pays légendaires. À l'intérieur de la pochette, on peut voir une cité archaïque en cours de destruction par des forces solaires, extraterrestres et animales. Poséidon n'a pas l'air d'être de la partie, mais le message de Sun Ra, lui, est très clair lorsqu'on découvre le texte imprimé au dos du disque titré « The Dead Past », le défunt passé. L'artiste, futuriste fanatique, y dit regretter que trop d'esprits de notre époque, pourtant si avancés technologiquement, s'appuient encore sur le passé pour construire le monde de demain. Or, le passé est mort, écrit-il en lettres capitales. Et ceux qui voudront continuer à le suivre mourront eux aussi. Une déclaration pour le moins abrupte, mais qui résonne en partie avec l'amour du futur et l'écrasement du passé tel que l'envisage la mythologie Drexilla. Nous écoutions ici le début du morceau titre « Atlantis ». Vous aurez sans doute remarqué l'influence majeure exercée par Kraftwerk sur l'œuvre de Drexilla. On a vu avant-hier que le groupe de Düsseldorf avait été l'une des références des débuts du hip-hop, mais on sait aussi qu'il a exercé un rôle prégnant sur la techno de Détroit. Chez James Tinson et Gerald Donald, ce rôle est peut-être encore plus déterminant puisqu'ils empruntent au groupe allemand l'une de ses grandes innovations, à savoir l'utilisation de la musique électronique comme vecteur de description et de critique du monde. Certes, la critique de Kraftwerk s'appuyait moins sur la fiction et préférait cultiver une distance discrètement ironique qui faisait sa force et son originalité. Mais dans sa manière d'aborder les technologies, les transports, les mégapoles, comme ici avec Metropolis, elle annonce déjà certains thèmes de Drexia. Plus largement, le sentiment d'aliénation radicale examiné par les auteurs de Trans-Europe Express a beau sembler très éloigné de celui que subissent les afrodescendants, ces deux mondes parviennent tout de même à communiquer. Ou plutôt, devrait-on dire que la capacité d'adaptation propre à ces passagers de l'Atlantique noir rend certains d'entre eux particulièrement sensibles à des expériences a priori différentes de la leur. Des expériences rapportées par des citoyens désincarnés d'une Allemagne en pleine croissance, à peine 30 ans après la fin du nazisme, mais qu'ils comprennent comme une étrange évidence et qu'ils vont donc se réapproprier.
Enter your 4-digit code.
Il y a aussi chez Drexia des citations explicites de Kraftwerk. Ces derniers ont ainsi titré l'un de leurs albums Autobahn, Autoroute, et dès leur deuxième disque, Stinson et Donald donnent le nom d'Aquaban à l'artère principale de leur univers. On peut aussi mentionner la bubble Metropolis, évoquée en début d'émission. Ces références au groupe de Florian Schneider et Ralph Hütter, et plus généralement à l'Allemagne, se multiplieront au sein d'un projet parallèle à Drexia, monté par Gerald Donald avec sa femme en 1999. Il s'agit de Doppler Effect, dont le premier album porte un titre allemand, Gesamtkunstwerk, qui veut dire art total, et comporte plusieurs plages aux noms provocateurs tels que Superior Race et Stérilisation. Gerald Donald s'y présente même sous le nom germanique de Rudolf Klorzeiger. Il changera encore de pseudonyme au cours des années 2000 pour choisir celui de Heinrich Müller. Dans ses différents disques, il s'intéressera aux manipulations génétiques ou au contrôle de l'information. Une façon tellement ambiguë de jouer avec les codes qu'elle réussit à neutraliser la provocation supposée. Nous écoutons ici le morceau Info Physics de Doppler Effect. Si Gerald Donald s'est permis en 1999 de sortir un album de son côté avec Doppler Effect, c'est que Drexia avait marqué une pause depuis 1997. Et puis le duo revient et publie son premier véritable album, Neptune's Lair, en 1999 aussi, chez les Berlinois de Trésor. Le mystère cultivé autour d'eux ne les a en effet pas empêchés d'être édités à l'étranger, en Allemagne donc, mais aussi en Angleterre, où le label Reflex d'Aphex Twin édite un de leurs EP, ainsi qu'en France où Source, une division de Virgin, puis Record Makers publient plusieurs projets issus de la nébuleuse Drexia. Si l'atmosphère de Neptune's Lair semble plus apaisée, on apprendra par la suite que James Stinson souffrait déjà d'une grave maladie cardiaque et se savait probablement condamné. Pressé de sortir le plus de choses possible avant son départ, Donald et lui produiront 7 albums différents entre 2001 et 2003. Ces 7 albums sortis dans l'urgence sont présentés par le duo comme les Seven Storms, 7 tempêtes sous-marines qui s'abattent sur le monde de la techno et peut-être aussi sur les forces en guerre contre le peuple drexien. Seuls 2 de ces Storms sortent sous le nom de Drexia, ce sont les albums Grava Fort et Harnessed de Storm dont nous écoutons ici le dernier titre qui semble évoquer le pouvoir même de la musique drexienne, celui de donner la vie. C'est le sublime Birth of New Life. Thank you. Les autres Storms sont édités sous divers alias et aujourd'hui la discographie complète des travaux de Donald et Stinson, ensemble ou séparément, compte une bonne trentaine de pseudonymes. Chez Donald, outre Doppler Effect, on citera Arpanet, Derziklus ou Black Replica. Stinson, avant de mourir, brillera notamment avec Translusion, The Other People Place ou Labrat XL. Il enregistrera aussi, sans les sortir, 6 morceaux aux couleurs moins froides qu'à son habitude sous le nom de Jack Peoples, que le label néerlandais Clone exhumera en 2017. Le label voue d'ailleurs un culte si intense au duo qu'il a ouvert dans son catalogue une division spécialement consacrée à Draxia et à ses ramifications. Draxia n'est pas encore une référence connue du très grand public, la diffusion récente des idées et de l'imaginaire afro-futuriste lui a permis de gagner un statut presque sacré dans certains cercles intellectuels et artistiques. Pour des raisons plus dramatiques, la mythologie draxienne résonne aujourd'hui forcément avec la situation des migrants africains en Méditerranée, mais aussi dans l'Atlantique quand les départs se font depuis l'Afrique de l'Ouest. Il faut encore insister sur l'idée que cette utopie n'est pas une banale fuite du réel. Elle est une œuvre collective qui dépasse le cadre de ses auteurs, lesquels ont d'ailleurs tout fait pour ne pas s'y imposer. Elle a d'abord été une création impliquant d'autres artistes de Détroit, comme Mad Mike, du label Underground Resistance, ou aussi Abdoulak, illustrateur et auteur d'une BD récente sur Draxia, et vraisemblablement, inspirateur du fameux texte imprimé sur la pochette de The Quest. Et puis, cette création va ensuite faire participer les auditeurs, qui auront chacun leur interprétation de cet univers sibyllin. Certains, comme Codewation, dont nous parlions un peu plus tôt, vont à leur tour faire vivre Draxia sous la forme de films ou de textes. D'autres, comme vous ou moi, nous contenterons peut-être seulement de l'apprécier en notre fort intérieur. Elle restera en tout cas l'une des idées les plus fascinantes de la culture populaire de notre époque et une preuve de l'existence de cette fameuse vie secrète des machines, surtout lorsque celles-ci sont jouées par des individus qui vivent au quotidien dans un monde de science-fiction. Cette série musicale d'été a été réalisée toute la semaine par Philippe Baudouin avec aujourd'hui encore à la technique Jean-Guilain Meige. Merci infiniment de nous avoir suivis dans cette épopée électronique. Lundi, vous retrouverez à la même heure La Compagnie des œuvres par Mathieu Garrigou-Lagrange. Très bonne fin de journée et très bon week-end à l'écoute des programmes de France Culture. We'll be right back.
Thank you.